quatrième et dernier temps de notre série sur la mémoire des colonisations. Aujourd'hui, le débat. Après avoir évoqué lundi la décolonisation en Algérie en compagnie de l'historien américain Todd Shepard, mardi le colonialisme allemand et hier la colonisation belge au Congo, nous nous interrogeons aujourd'hui avec Victor Massé de Lépinay qui a préparé toute cette semaine avec nous sur le couple histoire-mémoire à propos justement de ces colonisations. Nous le ferons en compagnie de Romain Bertrand, il est historien et chercheur au Centre d'études de recherche internationale, il est auteur d'un dossier de la documentation photographique qui vient tout juste de paraître, qui est titré « Colonisation, une autre histoire ». Nous le ferons également avec Jean-Pierre Batte, il est archiviste et chercheur associé à l'école des Chartes et il sort en avril prochain, donc le mois prochain, les actes d'un colloque qu'il a organisé sur Jacques Foccart, le monsieur Afrique des présidents français. Martin Moore sera également avec nous, il est auteur d'une thèse qui vient tout juste de paraître, qui est publiée donc aux presses universitaires de Rennes, sur le massacre de Tiaroy en 1944 au Sénégal. Il est post-doctorant au programme IHA Crépos qui est basé à Dakar. Mais tout de suite, comme nous sommes jeudi, vous le savez, un nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire par Séverine Yattar et Séverine Cassard. Et vous le savez, eh bien aujourd'hui, nous allons tenter de parler de colonisation de façon différente.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Des dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Des dates, le Saint-Empire, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Mathieu Giacomo enseigne l'histoire au micro-lycée 94, à l'intérieur du lycée Jean Massé de Vitry. Il s'agit d'une structure scolaire publique, expérimentale, qui accueille des jeunes décrocheurs souhaitant reprendre leurs études et préparer le baccalauréat. Une structure à taille humaine, un couloir, 6 salles, des cours en petits groupes, des temps collectifs et des suivis individualisés. Ce matin, ce sont des élèves de première. Ils sont une quinzaine. Il participe à un cours sur l'histoire de la colonisation.
Donc là, nous, on va continuer un peu dans la foulée sur la colonisation. Et on va commencer à travailler, plutôt que de définir de manière un peu abruptement l'objet, on va travailler sur une situation, Madagascar, en 1885. Donc la séquence qu'on va faire là, pendant ces deux heures, s'appelle « Il nous faut Madagascar ».« Il nous faut Madagascar », c'est une phrase qui a été prononcée à la Chambre des députés en France, par Jules Ferry. On va essayer de se mettre à la place des acteurs qui étaient impliqués dans la situation qu'on va décrire et de les mettre en face à face, ce qui ne s'est pas produit. Donc on va travailler, Madagascar c'est un bon exemple de ça, on va d'abord présenter la situation, on va d'abord expliquer pourquoi, d'après Jules Ferry, il nous faut, le « nous » étant les députés français, c'est-à-dire le peuple français, pourquoi il faut Madagascar, et ensuite essayer de voir quels étaient les arguments, quelles étaient les justifications qui étaient utilisées à l'époque. Alors, vous vous souvenez un peu la méthode en histoire, c'est tout le temps d'essayer en fait de se repérer dans le temps et dans l'espace. Donc, nous sommes, vous pouvez regarder sur la carte, nous sommes à Madagascar. Comment s'appelle cet océan-là? Alors, le Pacifique, il est plutôt par là. Entre l'Afrique et l'Australie, entre l'Afrique et l'Inde, c'est l'océan Indien. On est en plein océan Indien. Et pour comprendre pourquoi Madagascar est importante pour la France, il faut reprendre le contexte de l'expansion coloniale française dans son ensemble. Alors, on va maintenant s'intéresser à la question du temps, à la question de l'époque. En 1885, en effet, se réunit à Berlin ce qu'on appelle la conférence de Berlin. La conférence de Berlin rassemble, à l'invitation du chancelier Bismarck, dont on a aussi parlé sur l'industrialisation, elle rassemble des représentants des États européens et de l'Empire ottoman. Alors là, la qualité de l'image n'est pas très bonne, mais est-ce que vous pouvez essayer de discerner ce qu'on voit au fond de cette gravure, en fait, de ce dessin de presse? Oui, c'est la forme de l'Afrique. Le sujet de la conférence, on va dire ça de manière un peu caricaturale, c'est « Partageons l'Afrique, que fait-on de l'Afrique ?» Alors je dis ça de manière caricaturale, mais les caricaturistes de l'époque, justement, eux ont interprété ça de cette façon. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors là, on reconnaît peut-être Bismarck. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Bismarck, là, sur la caricature qui est à côté? Il coupe l'Afrique, il est en train de partager le gâteau, hein, littéralement. Ça veut dire partager le gâteau, il y a quelque chose de bon qu'on va diviser ensemble. Cette conférence de Berlin, elle ouvre la voie à la colonisation. Je vais vous montrer une dernière caricature qui représente le partage de l'Afrique. Que voit-on au centre?
Un chat.
Alors, un chat, qui on exclut? Alors, plutôt un podium, qu'est-ce qu'on a sur le podium, Marine?
Une femme noire.
Une femme noire, une femme voilée. Plutôt égyptienne, on voit les pyramides derrière. Hein. Alors, on est dans les clichés européens de l'époque sur l'Afrique. Alors, regardez un peu là sur le côté gauche de la caricature. En fait, cette femme, qu'est-ce qu'on lui fait à cette femme-là? Il y a des mains qui l'attirent. Vous voyez, même le pauvre lion n'échappe pas au fait que quelqu'un est en train de mettre la main dessus. Regarde ce pauvre lion-là, il a l'air tout malheureux. Et il y a quelqu'un en plus, il y a une main extérieure qui tire sa queue. Et vous pouvez voir le commentaire qui va avec, hein. Grand déballage, il faudrait imaginer que là je suis en train de vous faire l'annonce d'un cirque, hein. Grand déballage de nouveautés coloniales africaines, faites votre choix, un continent tout entier à partager, occasion superbe, tranche de Congo, morceau de Guinée, portion d'Abyssinie, Nubie, Zanzibar, etc. Grand terrain à bâtir sur le Zambèze et le Niger, avec forêt, chasse réservée, mine de diamants et de noix de coco, gisement d'ivoire, source d'huile d'arachide, etc., etc., faites votre choix. Là, on est dans un journal qui s'appelle La Caricature. Mais cette caricature, elle montre bien comment une partie de l'opinion européenne reçoit cette conférence de Berlin, ce partage de l'Afrique. Là, c'est l'expression, quand on dit faire main basse sur quelque chose, là, vous l'avez en image, finalement. Et là, on va se permettre un peu, on va se permettre quelque chose qui n'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, mais vraiment, il ne faut pas le faire, mais on va le faire quand même, parce qu'on est des fous, c'est qu'on va faire un anachronisme. 1885, c'est un moment qui est important dans l'histoire parlementaire française, parce que c'est le débat sur la colonisation à la Chambre. Donc c'est les documents qui sont très précieux pour l'historien parce qu'ils permettent de comprendre pourquoi la France fait le choix de la colonisation, puisque c'est dit par la bouche des représentants du peuple. Ces députés vont expliquer pourquoi ils pensent que coloniser Madagascar ou Tonkin, qui est l'autre grande affaire française, le Tonkin c'est une région d'Indochine, pourquoi il faut coloniser. Donc on a vraiment une parole qui s'exprime au sujet de la colonisation. Donc nous on va faire dialoguer quatre de ces députés qui interviennent dans le débat de manière très importante, le débat de 1885, avec deux personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées, qui sont d'une part la reine de Madagascar et un autre personnage important qui est une autre reine de Madagascar. Et donc on va essayer de se remettre vraiment dans l'époque, on va faire ce qu'on appelle un anachronisme créatif, puisqu'on va faire quelque chose qui ne s'est pas produit. Entrez.
Et si vous voulez savoir la suite de cet anachronisme créatif, il faudra écouter le feuilleton de la semaine prochaine dans la Fabrique de l'Histoire. Donc, ce feuilleton était signé Séverine Yattard, Séverine Cassard, avec une prise de son signée Jean-Marie Porcher. On y raconte tout de même une histoire intéressante. Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Martin Moore.
Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Batte.
Bonjour.
Et bonjour Romain Bertrand. Bonjour. Une histoire que vous racontez aussi de façon différente dans votre documentation photographique titrée « Colonisation, une autre histoire » puisque vous avez une portion de ce numéro de la documentation photographique consacrée aux mémoires d'Empire et cette portion, deux pages, sont consacrées à la question de Madagascar et de sa mémoire justement. Comment faire ressurgir dans une classe française aujourd'hui cette question de l'enseignement de l'histoire de la colonisation et de sa mémoire?
Oui, il faut d'abord rappeler que Madagascar, c'est un lieu où on voit s'exercer à plein, et comme dans sa démesure, la violence du pouvoir colonial. Les massacres de Madagascar en 1947, c'est au bas mot 30 000 victimes, peut-être beaucoup plus. Et ce qui est très intéressant concernant les mémoires sociales, les mémoires politiques et les mémoires sociales profondes de la colonisation, c'est qu'on a des témoignages d'ethnologues dans les années 1960, donc par-delà l'indépendance, qui nous expliquent que pour rejouer ce traumatisme de la domination coloniale, pour le rejouer et d'une certaine manière pour le conjurer, ou pour prendre avec lui une distance qui soit la distance juste et nécessaire, eh bien on fait appel à une très vieille forme rituelle, qui sont les cérémonies de possession du tromba, qui sont de très vieilles formes rituelles parce qu'elles datent probablement du 15e ou du 16e siècle. Elles auraient été importées depuis l'Afrique, depuis Great Zimbabwe. Sont devenues des rituels importants des royautés malgaches à partir du 17e siècle où les ancêtres royaux reviennent par-delà leur trépas, s'incarnent le temps de la possession dans le corps de l'un de leurs serviteurs et continuent à émettre, ou plutôt à éructer des ordres. Et on a des ethnologues, notamment Gérard Altab, dans les années 1960, qui nous expliquent que chez les Betsimisaraka, donc sur la côte orientale de Madagascar, eh bien on utilise cette forme rituelle, mais en lieu et place d'un ancêtre royal, qui revient pour commander arbitrairement, eh bien on reproduit la case du colon, et c'est le colon qui, le temps d'une cérémonie, se met à brailler des ordres incompréhensibles. Et donc, d'une certaine manière, voilà, on a un rejeu de cette violence constitutive du moment colonial à travers le rituel.
Martin Moore, bonjour. Vous avez travaillé, vous, sur une autre violence coloniale qui ne fait pas 30 ou 40 000 victimes comme à Madagascar, mais qui en fait beaucoup moins, mais néanmoins, on ne sait toujours pas le chiffre du nombre de victimes. C'est le massacre de Tiaroy en 1944, là aussi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au Sénégal, donc dans la banlieue de Dakar. Un massacre qui est rejoué, lui aussi, dans l'espace politique de la colonisation encore après la Seconde Guerre mondiale, mais rejouer, c'est tout le thème de votre livre et de votre thèse, le livre qui vient d'être publié aux presses universitaires de Rennes, au moment de l'arrivée de Sédar Senghor au pouvoir, et puis des successeurs de Sédar Senghor régulièrement jusqu'à aujourd'hui.
Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, par rapport à ce que dit Romain Bertrand, je pense que la question des temporalités, la question des mémoires longues sont assez intéressantes. Moi, ma thèse s'intitulait de Tiaroy, on aperçoit Gorée. Donc Gorée, c'est cette île qui a été un des lieux de déportation des Africains vers le Nouveau Monde. L'événement Tiaroy, il dure quelques secondes. Hein. C'est des armes automatiques qui vont tuer des soldats désarmés. Et qui va...
Les soldats africains désarmés, tirailleurs, donc dits sénégalais, revenus de la France en guerre, et donc à peine sont-ils arrivés sur le territoire donc sénégalais qu'ils vont être massacrés le 1er décembre 1944.
C'est ça, la guerre est pas complètement terminée. Donc ces soldats-là ont été mobilisés en 39-40. Ils ont passé 4 ans comme prisonniers de guerre sur le sol français parce que les Allemands ne voulaient pas d'Africains sur le sol allemand. Donc ça est gardé par leurs propres officiers français. Et à l'automne 44, on est dans une phase de blanchiment de l'armée. On commence à rapatrier aussi ces ex-prisonniers de guerre qui vont arriver à Dakar fin novembre, qui vont réclamer leur solde de guerre et qui vont recevoir pour toute réponse des coups de mitraillette de la part de l'autorité militaire qui est à Dakar. Qui a un massacre qui est immédiatement couvert par le pouvoir civil à Dakar. Et on ne sait pas trop les liens avec le pouvoir civil en France. Bon, c'est le gouvernement provisoire de la République qui à ce moment-là, c'est le général de Gaulle. On n'arrive pas à trouver de position de Gaulle
sur cette question.
Et effectivement, dans mon travail, moi, je me suis intéressé à comment cet événement, et sur la question de la mémoire, comment ce fait devient un événement et qui est rapidement mobilisé par toute une série de la population dakaroise, et dès 45 par Senghor qui fait un poème, et jusqu'à aujourd'hui, effectivement.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on parle de la mémoire coloniale, mais pour bien évoquer cette mémoire, il faut, vous l'avez dit, replacer les événements dans un temps plus long, dans une temporalité plus longue. Tiaroy avec Gorée, Tiaroy aussi avec toute l'histoire des tirailleurs sénégalais en 14, Tiaroy avec également, vous évoquez un certain sens de l'honneur qu'il pouvait y avoir dans certaines sociétés traditionnelles, dites traditionnelles africaines. Romain Bertrand, vous expliquez dans la documentation photographique, dans le numéro que vous avez fait, qu'il faut... Pensez qu'il faut arrêter de parler d'histoire coloniale, mais plutôt parler d'un moment colonial qui s'inscrirait dans une temporalité beaucoup plus longue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire exactement, ce moment colonial ?
On pourrait dire de façon simple que le moment colonial, la période coloniale, c'est un moment parmi d'autres dans des trajectoires historiques de très longue durée, des sociétés d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie. Un moment parmi d'autres, mais pas un moment comme les autres. hein, parce qu'il faut rappeler la singularité de la violence coloniale dans l'échelle des massacres, dans les formes de domination qui s'exercent. Alors non seulement par la voie du massacre, hein, de la coercition physique, mais aussi la violence symbolique, hein, exercée au quotidien, la discrimination, la ségrégation. Donc l'idée, c'est que ça n'est quand même pas un moment comme les autres, et il faut faire toute sa place à l'histoire de la répression coloniale. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus en rester à l'idée que d'une certaine manière, toute l'histoire de ces sociétés, d'Afrique, d'Asie, du Sud-Est ou d'Océanie, commence avec l'arrivée des Européens, avec leur rencontre malheureuse avec l'Europe, et d'une certaine manière s'arrête ou cesse de nous intéresser au moment du départ contraint et forcé des Européens. Donc voilà, l'histoire de la Sénégambie n'est pas seulement l'histoire du Sénégal français. Elle commence bien avant et elle se poursuit après. Et d'une certaine façon, c'est pour prendre l'exacte mesure du moment colonial qu'il est nécessaire de remonter en amont, dans un temps d'ailleurs qui n'était pas à proprement parler précolonial, parce que ces sociétés ne vivaient pas suspendues dans l'expectative de la rencontre avec les Européens. Elles avaient leur propre histoire, leurs propres horizons d'historicité. On l'a entendu d'ailleurs dans cette fabrique scolaire de l'histoire. Il y a l'océan Indien. L'océan Indien est un lieu de mondialisation qui prédate, hein, de très loin l'arrivée des Européens et les premières entreprises impériales européennes. Donc voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est de ne pas se laisser piéger d'une certaine manière par les chronologies ni même les cartographies du pouvoir colonial hérité précisément de ce pouvoir.
Et donc travailler sur les mémoires coloniales, c'est également faire appel, passer par-dessus le moment colonial pour aller chercher dans l'histoire plus longue ce qui peut avoir, ce qui est resté dans les mentalités, dans les imaginaires qui vont être mobilisés pour la structuration de ces mémoires.
Oui, effectivement. Alors, moi, je pense qu'il faudrait vraiment dissocier assez clairement la question des usages politiques de la référence au passé colonial. Qui évidemment font florès en période de campagne électorale, de la question des mémoires longues et profondes de la colonisation. Ce qui d'ailleurs veut dire qu'on ne reste pas seulement dans l'espace métropolitain de l'ex-colonisateur, mais on s'intéresse à ce qui se passe dans ces sociétés ex-colonisées qui précisément ne peuvent pas être réduites seulement à leur expérience de la colonisation. Et là, c'est un peu différent, ça appelle d'ailleurs des travaux beaucoup plus complexes, mais ça nous transporte bien au-delà de la simple référence politique au passé colonial. Alors, c'est au niveau des imaginaires, des mentalités, c'est au niveau de la structuration aussi de l'espace des rapports sociaux. On voit ressurgir aussi de très vieilles questions, comme celle de la servilité en Afrique, à travers la façon dont le moment colonial l'avait réarticulé. Bref, là, on pénètre, on pourrait dire, dans des territoires plus lointains.
Jean-Pierre Batte, vous n'êtes pas encore intervenu dans cette discussion, ce débat. Je rappelle, vous êtes archiviste et vous travaillez beaucoup sur ces archives de l'Afrique en lien avec la colonisation et la post-colonisation, pourrait-on dire. Vous allez organiser un grand colloque dont les actes seront publiés bientôt autour de la figure de Jacques Foccart, Monsieur Afrique des présidents français du début de la Ve République en particulier. Et vous avez l'occasion de vous rendre très souvent justement en Afrique pour pouvoir discuter avec vos homologues en particulier de ces questions de mémoire, d'accès aux archives, de possibilité de trouver dans des archives ce que l'on ne trouve pas peut-être dans la mémoire des anciens acteurs.
Tout à fait, pour faire suite à ce que dit Romain, en fait, l'idée que nous développons depuis quelques années aux Archives de France, c'est un programme qui s'appelle Mémoire partagée. On ne conçoit pas que le travail sur les archives puisse être à la seule initiative d'un des deux partenaires. Donc, pour illustrer cette activité, à Madagascar, et pour continuer sur cet exemple, depuis 3 ans, avec la direction des Archives nationales de Madagascar, nous avons établi, en partenariat également avec la British Library et les Archives de France, un projet de numérisation, et on s'est longtemps interrogé quel objet numériser parmi les archives. Et en fait, on a choisi délibérément de sélectionner les archives du Premier ministre René Larivoune, le dernier Premier ministre, donc deuxième moitié du 19e, et de manière générale, les archives de la monarchie merne, afin de montrer, de rendre accessible et d'illustrer. Donc on est vraiment dans la fabrique, peut-être pas très intellectuelle, mais extrêmement pragmatique, hein, de montrer en fait que l'État malgache, depuis 1807, fonctionnait, je dis 1807 à cause de la reconnaissance par les Britanniques, mais fonctionnait, avait sa propre économie, et à partir de 1885, comme on l'a vu dans le reportage, survient le protectorat fantôme. Et à partir de là, c'est 10 années... d'assauts, de coups de boutoir répétés, avec des objets très techniques, le télégraphe, la présence d'administrateurs militaires, etc., etc. Et l'idée était bel et bien de définir avec la directrice des Archives nationales, ce qui pouvait faire, peut-être pas mémoire, mais matériaux d'histoire. Et c'est là qu'on retombait sur cette fameuse histoire des archives, où on constate que, en forme d'ex-voto, la première chose qu'a fait le colonisateur, Gallieni, a consisté à capter les archives de la monarchie merne, en forme de régalia, pour les récupérer et les congeler, ce qui a d'ailleurs évité qu'elles brûlent dans un incendie accidentel du palais, les congeler, et on les réexhume aujourd'hui en montrant cette dynamique de l'État malgache, de la politique malgache, du fait politique.
Donc en réinscrivant l'aventure coloniale française à Madagascar dans une histoire beaucoup plus longue.
Exactement. Et montrer en fait cet instant, 1885-1895, d'effraction coloniale, d'entrée par la violence qui a été détruite, et véritablement de captation des outils de l'État.
Martin Moore, dans votre la préface à votre ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes, donc sur le massacre de Tiaroy en 1944 en Afrique occidentale française, eh bien l'historien Elikia Mbokolo, qui vous a donné la préface, dit en fait, et c'est tout le propos de votre livre, que le crime ne paie pas, c'est-à-dire que au bout du compte, quand on veut cacher une forfaiture, ce qui est le cas de Tiaroy, commise par des gradés de l'armée contre leurs propres soldats, dit-il, eh bien, au bout du compte, ça ressort, et ça ressort sous forme de mémoire, mémoire contestataire, mémoire protestataire, mémoire revendicative, qui veulent faire droit, justement, à cette histoire qui a été cachée par les anciens colonisateurs.
Oui, je pense qu'il faut s'intéresser voilà à ces dynamiques du souvenir. Donc la mémoire, c'est quelque chose qui se lie toujours au présent. On est sur un temps long effectivement qui concerne les sociétés africaines et dans leur rapport avec la métropole. On est dans un moment post-colonial, même si le terme est souvent on ne sait pas trop ce qu'on met derrière, mais qui permet de réinterroger, il me semble, moi, la question de la violence d'État. Et si on parle aujourd'hui beaucoup de Tiaroy, notamment depuis 10 ans, c'est aussi parce qu'on est dans un moment qui est extrêmement répressif. Bon, j'aurais un ou deux exemples, mais sur le, il y a un rappeur qui s'appelle Black M, qui a été interdit de chanter à Verdun il y a quelques mois. On a une affaire Adama Traoré qui rappelle beaucoup, finalement, les techniques du pouvoir pour en même temps tuer et en même temps mettre en accusation des gens. Donc c'est exactement ce qui se passe à Tiaroy, où on accuse les tirailleurs de cette mutinée, de cette rebellée.
Pour justifier la répression.
Justifier la répression qui va advenir.
Et quand vous prenez ces termes, effectivement, massacre d'État, vous faites référence aussi à un anthropologue et historien qui est Alain de Verpe, qui avait fait ce travail sur, en particulier sur Charonne.
Et complètement, hein, qui fait le regretté Alain de Verpe, qui fait une anthropologie historique d'un massacre d'État. Tiaroy est passé inaperçu en France en 1944. Ça, c'est un élément à souligner, mais qui est au début, finalement, d'une longue liste de massacres coloniaux qui vont durer jusqu'à 62, et dont Charonne est peut-être un des derniers éléments.
Oui, entre-temps, effectivement, c'est Ifeghelma au moment du 8 mai 1945. Victor Massé de l'Épilé.
Oui, ce que disait Jean-Pierre Batte sur les mémoires partagées, Martin Moore avec Tiaroy, c'est un bon cas d'espèce. Vous le disiez, en France, ça a été occulté, oublié. Tiaroy, c'est pas un événement à proprement parler sénégalais. Je dis ça parce que les soldats qui ont été massacrés étaient des soldats de l'AOF, qui étaient aussi bien guinéens que maliens, burkinabés ou peut-être ivoiriens. Je ne sais pas exactement s'il y avait toutes ces nationalités. Mais comment est-ce que cet événement est devenu finalement un événement, un moment constitutif de la mémoire sénégalaise? C'est le Sénégal qui s'est, on peut dire, occupé de cette histoire, approprié cette histoire et cette mémoire. Vous évoquez même le roman national sénégalais, et Tiaroy est constitutif de la mémoire de tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais connaissent ça. Comment est-ce que ça s'est imposé pour ce pays-là? Et bon, évidemment, Tiaroy est au Sénégal, il faut le préciser quand même.
Tiaroy est une quinzaine de kilomètres de Dakar, donc ça c'est un premier élément. Sur les tirailleurs, peut-être un petit mot aussi. Effectivement, les tirailleurs, on a une image, un petit peu une figure qui s'est imposée aujourd'hui, alors qu'on est sur une histoire qui commence au milieu du 19e siècle. Il faudrait regarder un petit peu les constitutions avec les armées des Samori Touré, des Ladjomar, et cette transition. Alors, en fait.
Rappelons que Samori Touré et Ladjomar, c'était des opposants à la colonisation française qui ont combattu pour les derniers jusqu'en 1898, donc l'arrivée des soldats et des troupes coloniales françaises sur leur territoire.
Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au début du XXe siècle, on a quand même une espèce de reconversion de ces soldats, même s'il faudrait continuer à travailler là-dessus, parmi les troupes de tirailleurs sénégalais. On parlait tout à l'heure de Madagascar, la répression de 47, et aussi le fait de tirailleurs ouest-africains. Donc
Alors ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose sur lequel, je crois, on n'a pas beaucoup travaillé, peut-être Marc Michel un peu, mais c'est sur l'usage par la puissance coloniale de soldats venant des colonies pour réprimer d'autres, dans d'autres espaces que les leurs, d'autres pays qui sont sous la coupe de la France, par exemple. Ça, c'est un travail qui est à faire. On sait que jusqu'en 1960 et aux indépendances ouest-africaines, par exemple, des tirailleurs ou des soldats venant de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique centrale française ont combattu en Algérie, ont réprimé en Algérie avant l'indépendance de leur propre pays et le retour chez eux.
Et même jusqu'en 1962, hein, alors que les pays sont déjà indépendants, on a encore des tirailleurs ouest-africains qui sont dans l'armée française. On a un moment entre 45 et 50 où on a une espèce de lutte syndicale politique qui est extrêmement forte en Afrique de l'Ouest. Des massacres qui se passent à ce moment-là en Côte d'Ivoire, à Dimbokro notamment. Et c'est à ce moment-là que les militants sénégalais de ce qui est le Rassemblement démocratique africain, donc le grand parti anticolonialiste fondé en 1946, vont clairement récupérer la mémoire de ce massacre. Et là, on est dans les usages du passé, hein. On utilise l'histoire en vue de l'indépendance jusqu'en 58, où De Gaulle vient à Dakar et on l'accuse d'être l'assassin de Tiaroy. En même temps, on lit ça à ce qui se passe au Cameroun, à ce qui se passe en Algérie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après après l'indépendance, des militants donc, qui ne sont plus du RDA mais du Parti africain d'indépendance vont également utiliser Tiaroy. Mais cette fois-ci contre Senghor, qu'ils accusent d'être un néocolonialiste et d'être de s'être vendu un petit peu aux intérêts de l'impérialisme français.
Et donc cette mémoire viendra jusqu'à aujourd'hui, parce que d'autres présidents qui ont succédé, en particulier à Léopold Sédar Senghor, comme Abdoulaye Wade, ont utilisé aussi ce symbole, pourrait-on dire, de Tiaroy, pour pouvoir forger une histoire commune à ce Sénégal, donc cimenté en partie, pas simplement, par ce massacre de Tiaroy. Il faut d'ailleurs rendre hommage à un historien récemment disparu, que nous avions rencontré et que nous avons beaucoup aimé, qui était Bakary Kamian, qui avait été un de ceux qui avait vraiment réfléchi, à cette question de la place des soldats de l'Afrique occidentale française dans la part de colonisation. On voit bien, et c'est ce que vous voulez montrer, en l'occurrence Romain Bertrand, dans votre numéro de la documentation photographique « Colonisation, une autre histoire », qu'il est, il faut sortir d'une vision vainqueur-vaincue, par exemple, qu'il faut imaginer comment se tresse justement autour de ces questions de colonisation des mémoires qui sont beaucoup plus imbriquées qu'on ne le pensait auparavant, et qu'il faut travailler justement à la fois sur les résistances locales, sur les métissages locaux de mémoire en particulier, et c'est ce que vous racontez dans ce numéro de la documentation photographique.
Oui, et puis prendre en compte la façon dont ce qui précède l'arrivée des troupes coloniales contribue fortement à dessiner ou à déterminer les contours même de la nomination coloniale et ses limites. Et d'une certaine manière, on l'a vu dans le cas de Madagascar, si les Français arrivent aussi rapidement d'une certaine manière à essayer d'imposer leur domination, c'est parce qu'ils se coulent dans un système de centralisation politique qui est celui de l'État Mérina et qui les précède très largement. C'est la mort du Hadj Oumar Tall, hein, qui est fondateur de l'Empire tout couleur en 1864, qui pave la voie aussi aux opérations militaires françaises. Donc d'une certaine manière, le pouvoir colonial toujours s'insinue dans les failles des systèmes politiques locaux, et de toute façon on n'a que très rarement les moyens de ses ambitions, sauf à s'adjoindre le concours de segments importants des sociétés locales. Et de ce point de vue-là, même la conquête, d'une certaine manière, la conquête coloniale, est très fréquemment une entreprise, on pourrait dire, métisse. Hein, on vient de parler des tirailleurs sénégalais ou d'AOF, mais il n'est pas de scénario de conquête coloniale qui n'ait impliqué le concours de segments des sociétés locales. Et du coup, on a dans tous ces scénarios une sorte de, on pourrait dire, d'instrumentalisation réciproque. Hein, c'est-à-dire que les Français, en l'espèce, utilisent des éléments des sociétés locales, mais ces éléments des sociétés locales tirent de leur rapport aux colonisateurs des moyens supplémentaires de puissance pour, d'une certaine manière, faire triompher leurs propres intérêts sur d'autres éléments des sociétés locale.
Ce qui explique le choix de couverture que vous avez fait de votre numéro de la documentation photographique, une formidable photo de Greg Semou, Battle of the Noble Savage One, qui date de 2007, et qui est une photographie qui représente, alors ce sont des guerriers samoans, j'imagine, donc tatoués y compris au visage, mais dont certains d'entre eux portent l'uniforme britannique, donc il y a ce mélange, effectivement, entre guerriers traditionnels et arrivée des colonisateurs, et c'est ce que vous voulez démontrer dans votre dossier de la documentation photographique, Romain Bertrand.
Oui, cette photographie, ça montre aussi l'enchevêtrement des temporalités. Donc il s'agit de guerriers maoris qui sont censés rejouer l'ensemble des rôles de la conquête, ceux de leurs ancêtres primitifs supposés et ceux du colonisateur britannique aussi. Mais ce qui est assez amusant lorsqu'on regarde d'un peu plus près la photographie, c'est qu'on a en fait des éléments de costumes et de décors qui renvoient à des périodes très différentes. Donc on a du costume impérial britannique, on pourrait dire classique, fin 18e, début 19e, mais on a aussi on a une petite casquette de marin très contemporaine. Et donc, d'une certaine manière, je trouve que cette photographie dit bien la façon dont le moment colonial se situe au carrefour d'historicité et de temporalité très, très complexe.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, on a évoqué les moments politiques dans lesquels les débats mémoriels arrivent toujours. Il y a toujours une utilisation politique de ces questions. En 2014, je crois, François Hollande est allé à Thiaroye et il a remis symboliquement les archives de ce massacre au Sénégal. Vous expliquez, Martin Moore, que dans ces archives, qui d'abord étaient absolument publiques, déjà accessibles à tous les chercheurs, qui sont vraisemblablement, peut-être on y reviendra, falsifiées, il y a sans doute rien à apprendre. Mais je voudrais vous demander, Jean-Pierre Batte, de manière générale, peut-être la place des archives dans ces constructions mémorielles. On a un peu l'impression que sortir les archives, donner accès aux archives, ça va permettre de rétablir une vérité, en tout cas ce discours politique.
Oui,
qu'en est-il ?
Il y a effectivement deux phénomènes. Le premier, c'est le principe néo-positiviste, si j'ose dire. La vérité va sortir des archives, on ouvre le carton avec un peu de poudre de perlimpinpin et la vérité saute aux yeux. Il y a une évidence qui, évidemment, pour les professionnels de l'histoire comme des archives, est aberrante. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a aussi une dimension quasi sacrale, religieuse, comme un ex voto. On donne les archives, c'est-à-dire qu'on donne l'objet du délit, la preuve du délit. En réalité, on ne donne pas les archives, on donne des copies, ce qui est déjà important. Et sous François Hollande, il est vrai que la charge mémorielle, qui jusqu'alors était largement portée sur la Seconde Guerre mondiale, s'est déplacée sur la période coloniale, et nous l'avons vu dans le monde des archives. Le premier geste, en fait, c'était l'assassinat de Ferhat Ached en 1952, avec la remise non pas d'une copie des archives, non pas au gouvernement tunisien, mais véritablement au fils de Ferhat Ached. Alors Ferhat Ached, c'était un leader syndicaliste de l'UGTT, donc la CGT tunisienne, pour aller vite, en 1952, abattu, et c'est la première violence d'État qui déclenche véritablement le processus final de la décolonisation de Tunisie. Sauf que, en fait, ce qui est donné, ce sont les archives de surveillance. On n'a toujours pas eu accès aux éventuelles, si elles existent, archives de l'opération d'élimination, parce que ça implique en fait tout le processus qui voit la création de l'Armée rouge, cette succursale, disons, du service action qui doit éliminer les opposants coloniaux. Donc il y a ces deux dimensions. La première qui est donnée un geste, si vous voulez, comme une promesse de vérité, mais en fait on s'arrête à la promesse, c'est là qu'on est dans une dimension très politique. Et puis derrière, la dimension vraiment sacrée. Alors je reprends ça les travaux de Sophie Curé, elle parle d'archives trophées, c'est véritablement accéder au cœur.
Elle a travaillé sur les archives prises pendant la guerre par les Allemands et puis ensuite récupérées par les Soviétiques et emmenées à Moscou avant de revenir pour la plupart d'entre elles en France après la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'avait fait Sophie Curé.
Et l'idée, c'est donc qu'en fait, c'est un processus beaucoup plus long, subtil, mais qu'il n'y a pas l'idée en fait du coffre-fort. Il faut un petit peu casser cette idée qu'il y aurait un coffre-fort, c'est-à-dire une société civile qui va se battre, un État qui contrôlerait pas, parce que ça suppose que l'État contrôlerait parfaitement sa mémoire et sa documentation. Quand je dis l'État, c'est-à-dire le pouvoir politique. De fait, il y a des professionnels, mais nul doute que le pouvoir politique ignore en grande partie ce qui est contenu dans ses archives. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque il y a eu une commission d'enquête sur Pouvana Oupa, là on se déplace à Tahiti, 1958, partisan du non au référendum, opposant à De Gaulle, considéré comme le Métoua, c'est-à-dire potentiellement le leader de l'indépendance de la Polynésie française. Il a fallu attendre l'arrivée d'Oscar Temaru, le président indépendantiste de Polynésie, le précédent président, pour que soit mis en place une commission d'enquête qui, en 2012, a laissé quand même tout le monde un peu pantois lorsqu'elle a débarqué en France. Et finalement, il n'y a pas eu de complexe. On a retrouvé les documents, sauf que, comme on l'avait dit avec Martin précédemment, les documents étaient en grande partie publics. Il n'y avait pas, si vous voulez, de révélation au sens événement du terme, épiphanique. Mais le pouvoir politique l'avait entouré, aussi bien à Tahiti, mais c'était légitime, qu'à Paris, l'avait entouré d'une sorte de grand déballage, alors qu'en fait, c'était œuvre d'historien, preuve en est. C'est Jean-Marc Regnault, professeur à l'Université de Polynésie française, qui était en charge de cette étude.
Oui, mais vous vous souvenez bien, Jean-Pierre Batte, qu'autour de ces questions de massacres liées à la colonisation et aux guerres coloniales, le grand débat remonte en gros aux années 80, à Jean-Luc Einaudi, au massacre du 17 octobre 61, à la possibilité ou non d'ouvrir les archives sur les massacres du 17 octobre 61, et au fait que ça a été fait, mais un peu de force.
Tout à fait, sauf qu'il faut quand même rappeler deux points, à mon avis, essentiels. Le premier, je ne dis pas que tout est parfait, mais le premier, c'est que c'était il y a 20 ans. Mmh. Le deuxième, c'est que c'était dans un processus judiciaire. C'était en fait, dans le procès Papon, peut-on faire le procès Papon et la Seconde Guerre mondiale, peut-on faire le procès de Papon, c'est-à-dire, là on revient à la question de la violence d'État, d'un ADN de la violence d'État qui se perpétuerait jusqu'à la guerre d'Algérie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en fait trois processus d'énonciation de la vérité dans les, que nous observons aux archives. Le politique, le judiciaire et le scientifique. Nous sommes dans le répertoire scientifique, mais nous entendons, nous voyons l'écho que peut avoir sur nos professions le judiciaire et le politique.
Oui, d'ailleurs, Martin Moore, ce cas de Tiaroy donne lieu à tous ces processus, y compris un processus judiciaire qui voit se combattre deux historiens qui ont écrit et historiennes qui ont écrit sur Tiaroy, et qui rend peut-être aussi complexe cette approche de ce massacre de Tiaroy aujourd'hui et le travail que vous avez pu mener, vous, en tant qu'historien, sur un massacre colonial comme celui-ci.
Oui, alors quelques mots sur la question de l'utilisation politique des archives. C'est vrai que Hollande, en 2012, quand il se rend à Dakar, vient juste d'être élu. Il cherche avant tout à effacer le discours de Sarkozy, de triste mémoire qui s'est tenu 5 ans plus tôt.
L'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire.
L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et le geste qu'il fait, c'est de remettre ses archives, qui est un geste beaucoup plus inédit, original, que de se rendre à Gorée, ce qui a déjà été fait par le pape Jean-Paul II. La deuxième chose qui est assez intéressante en termes de rituel, hein, vraiment, c'est qu'apparemment ça a été délivré sur une clé USB. Donc ça, je pense que c'est peut-être des historiens du futur qui auront à travailler un peu sur ces mises en totem. Et dans le même temps, on est 6 mois plus tard où la France va partir en guerre au Mali et va mobiliser cette histoire des tirailleurs comme un des prétextes pour entrer en guerre au Mali, en disant que les tirailleurs maliens, africains, sont venus
au secours de la France
en 14 et en 40.
Et donc, vous voulez dire que un geste comme celui-ci ne peut pas, lui non plus, être séparé d'un contexte plus global, en l'occurrence en Afrique occidentale. C'est ce que vous laissez entendre, Martin Moore.
Je pense que la question de la dette de sang a aussi une profondeur historique qui date de la Première Guerre mondiale et que c'est sur cet ordre du discours qu'il est intéressant de travailler.
Victor Mazet de Lépiné.
Oui, Jean-Pierre Batte, vous avez évoqué les ordres, si je puis dire, politiques, juridiques et scientifiques. Il y a quand même, pour ce qui concerne les mémoires des colonisations, peut-être pourrait-on dire un quatrième ordre qui est, on pourrait dire, fantasmatique ou peut-être aussi artistique, tout simplement, qui est que ces massacres coloniaux ou d'autres choses des mémoires de la colonisation deviennent des références finalement très déconnecté des archives, de la vérité historique, mais qui structure, et peut-être pas forcément pour le pire, c'est pas une critique, mais qui structure des identités, qui structure des discours.
Tout à fait. Moi, je dirais que c'est que le fantasme n'est pas un ordre. C'est, si vous voulez, un état d'esprit qui va traverser les trois ordres. En réalité, il y en a un quatrième que je n'ai pas cité, mais qui est l'évidence, qui est l'opinion publique. Oui. Je vais sortir un tout petit peu du champ colonial, mais vous allez comprendre pourquoi. Encore hier, des déclarations ont eu lieu sur la question des archives de l'assassinat de Sankara. Mmh. On est bien dans l'idée classique de l'historien de l'administration de la preuve.
Il y a un temps qui remonte à l'affaire Dreyfus,
bien etc. Sûr. Et voilà, c'est ça, on est dans des processus où l'historien a une place sociale. Quoi. Je rappelle les rapports d'expertise du directeur de l'école des Chartes qui exonère Dreyfus sur des critères purement scientifiques. Et ce qui a quand même bien déçu le tribunal militaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rapport de ces quatre ordres, disons, s'est accéléré depuis 20 ans. Les effets de mémoire, comme en effet de cascade, se sont auto-alimentés les uns les autres. Le judiciaire ne peut plus ignorer le social, le politique ne peut plus ignorer le social, et c'est cet emballement qui fait qu'on a vu en 20 ans comment s'est constituée la mémoire. Les archives ont été une des réponses possibles qui ont été données. Je tiens juste à dire que, vis-à-vis de la mise en totem, effectivement, là où on ne mesure pas l'impact des archives, c'est qu'en fait, c'est comme une bombe à fragmentation. On dépose et après, suivant l'accès qui sera possible ou non, il y aura une multiplicité d'interprétations, à la différence d'une cérémonie commémorative où on va se pencher devant une tombe, où il n'y a qu'en fait une seule photo qui va rester.
Sur tous ces points, vous en parlez évidemment, Romain Bertrand, dans votre dossier de la documentation photographique, cette intrication, cette imbrication, et cette incapacité justement à définir aussi précisément qu'on le croyait auparavant, histoire, mémoire, usage politique de l'histoire et de la mémoire.
Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec l'idée que l'arène judiciaire, l'arène politique et militante, l'arène scientifique ou académique, obéissent à des programmes de vérité différents. Mais du coup, il faut en tirer aussi toutes les conséquences. Et c'est là où l'idée de, où la notion de mémoire partagée me met un peu mal à l'aise. Je suis pour, je crois possible une histoire partagée qui, dans l'espace, toujours un peu labile de la méthode historienne, permettrait d'arriver à des récits beaucoup plus complexes, des situations coloniales, des massacres coloniaux, avec un travail en partenariat entre chercheurs français et chercheurs camerounais ou chercheurs vietnamiens. En revanche, cette idée de mémoire partagée, j'ai du mal à comprendre pourquoi on devrait partager la mémoire d'une douleur. Enfin, les joyeuses retrouvailles entre la victime et le bourreau, ça me semble pas en toute équité ou en tout souci de justice ce vers quoi nécessairement on doit aller. C'est-à-dire, je pense qu'on peut maintenir, et de toute façon on n'y peut pas grand-chose, des mémoires séparées parce que les rôles dans le temps même de la violence étaient à ce point distincts. Mais en revanche, une histoire partagée, oui. Oui.
Une histoire, et oui, vous êtes d'accord,
Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Il faut pas se méprendre sur le terme. C'est une étiquette. Le programme des Archives de France, c'est en fait des deux parties de la Méditerranée, même au-delà, puisqu'on travaille avec la République du Vietnam, ça consiste en fait à rendre accessible, sur des critères de droit et des critères matériels, notamment la numérisation, les archives qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire notamment permettre à des chercheurs du Sud de ne plus avoir à engager des dépenses financières folles qui peuvent être abolies grâce à la numérisation en partie. Donc mémoire partagée, ce n'est pas l'idée de faire une mémoire unique, c'est mettre à disposition des chercheurs les outils. Voilà.
Une grande collecte a eu lieu il y a déjà quelques mois pour faire suite à la grande collecte sur la mémoire de la des documents liés à la Première Guerre mondiale. C'était la première grande collecte. Une deuxième grande collecte a été mise en place. C'était France-Afrique, justement. Est-ce qu'on a on n'a pas eu de compte rendu, disons un peu exhaustif, de ce que vous avez récupéré dans les archives, archives départementales ou archives nationales, pendant ce week-end de grande collecte il y a quelques mois. Jean-Pierre Batte, qu'est-ce que les gens ont apporté dans ces centres d'archives qui leur appartenaient, qui étaient des archives peut-être familiales, des documents familiaux, qui vont permettre, alors je ne sais pas, de renouveler une vision que l'on pouvait avoir peut-être par le bas de ce qu'a été ces rapports entre France et ancienne colonie africaine, par exemple.
Alors c'était Afrique-France, pour éviter tout malentendu qui avait été choisi à la fin. Pourquoi est-ce qu'un bilan n'a pas encore été dressé? Tout simplement
parce que France-Afrique, ça sonne autrement, surtout quand on est spécialiste de Focard comme vous.
Pourquoi le bilan n'a pas été immédiatement dressé? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que, au-delà de l'événement, qui était en fait l'ouverture sur un week-end de tout le réseau des archives, il s'est passé deux choses, un petit peu inattendues, et c'est très bien ainsi.
C'est la surprise.
Oui, la première, c'est que, évidemment, l'événement en soi, on n'imaginait pas des légions de personnes sortant leur mal pour les amener aux archives départementales et nationales. En revanche, ça a enclenché un processus, c'est-à-dire que ça a ouvert, dans une sorte d'histoire par le bas, les archives à cette mémoire quotidienne, si j'ose dire, de l'histoire contemporaine, coloniale, mais aussi, et surtout, postérieure. Et il y avait, du coup, la deuxième chose qui était importante, c'est que ça s'est fait en écho, notamment avec les archives du Maroc et les archives du Sénégal, qui, à leur tour, ont embrayé un petit peu. Alors, au Sénégal, c'est un petit peu moins avancé. Au Maroc, ça a stimulé, si vous voulez, la collecte d'archives privées. Nous avons observé deux principaux axes sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est une mémoire coloniale qui remonte à la troisième ou quatrième génération. On est dans les processus où les questions sont largement passées.
Ce sont quoi, des lettres, des journaux?
Beaucoup de photographies.
Des photographies.
Beaucoup de photographies assez inédites. Et puis après, notamment de la correspondance personnelle. Donc il y a eu, si vous voulez, un premier. Puis la deuxième chose, je pense notamment aux archives de chercheurs et à celles de Manuel Charpie. Il a déposé aux Archives nationales ce qu'on appelle, parmi d'autres documents, des courriers cassettes de Béninois et Nigériens migrants en France dans les années 80, qui correspondaient avec ce format assez original qui a été oublié, qui est en fait un courrier enregistré,
des lettres vocales,
qui vont de la banlieue parisienne à destination du Niger ou du Bénin, et vice-versa. Et en fait, c'est précisément ce qu'on recherchait, c'est-à-dire rendre la voix au sans-voix, si j'ose dire, mais avoir cette espèce de parole ou d'écrit ou de verbe quotidien. Et on s'est aperçu que ça ouvrait petit à petit un champ dans les archives, dans la collecte des archives privées, qui était assez inattendu.
Et donc ça veut dire que une telle entreprise, qui était ouverte que pendant un week-end en l'occurrence, il y a quelques mois, pourrait être poursuivie ou peut donner peut-être l'amorce d'un programme plus long, en l'occurrence Jean-Pierre Batte.
Alors on revient à cette histoire de la demande sociale. Il y a deux choses. La première, qui est la grande collecte comme événement, qu'organiseront désormais tous les ans les archives nationales.
La prochaine, ce sera sur le thème des archives des femmes et du féminisme en particulier.
Et la deuxième chose, qui est à partir de là, le lien qui peut être retressé, qui doit être en permanence travaillé entre la société civile et les archives. Parce que nous pensons que les archives sont co-construites avec la société, que ce n'est pas une production de l'État en direction de la société.
C'est un vrai changement depuis quelques années, tout de même.
Si vous voulez, quand même, le déménagement. C'est le Fornox aujourd'hui.
Oui, c'est ça. L'idée, quand même, que vous étiez les garants, d'une certaine façon, d'une raison d'État, ce qui a pu être le cas jusqu'à il y a quelques années, en l'occurrence, ou un peu plus d'une dizaine d'années, ça n'est plus le travail que vous comptez faire et mener, en l'occurrence.
C'est plus le travail qui nous est assigné, ça c'est clair. Je dis pas qu'il n'y ait pas des tensions, dans différentes perceptions. Ce que je dis, c'est que le déménagement des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine a bouleversé, a été une révolution culturelle non négligeable. Aujourd'hui, l'histoire de l'immigration est travaillée directement en lien avec Générique, qui est l'association des associations liées à l'histoire de l'immigration. Donc il y a cette prise en charge qui n'est plus, je tiens à le dire, les grandes collectes logiques et post-traumatiques d'entretiens oraux telles qu'elles ont été fondées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On est dans une mémoire qui prend beaucoup plus en compte la construction par la société civile et non plus un récit à un instant T.
Victor Massé-Lépine.
Alors, est-ce que dans ces archives que vous avez collectées et que vous êtes sans doute en train d'éplucher, on voit se constituer par le bas, comme vous le disiez, ces mémoires de colonisation, en l'occurrence pour l'Afrique? Est-ce qu'on peut mettre ça en regard avec d'autres discours plus officiels, qu'ils soient historiques ou peut-être artistiques, puisqu'on a évoqué Senghor ou d'autres sur Tiaroy, par exemple? Est-ce qu'on peut faire des rapprochements comme ça pour voir comment certains discours passent dans les mémoires des oubliés, comme vous dites?
Oui, bien sûr, à cette très grande nuance près que la réponse ne sera ni univoque ni rapide. C'est-à-dire que c'est un chantier. Il faut voir que derrière cette enquête, c'est un chantier, c'est une promesse de recherche. Donc c'est pas les archivistes qui vont donner une réponse là-dessus. Oui. Ça va être les historiens qui vont se pencher sur ces archives, les collectifs qui vont. Et je tiens à dire, les lecteurs des archives ne sont pas que des historiens. On a beaucoup de personnes de la société civile,
la généalogie en particulier, et pas simplement.
Et en réalité, on s'est aperçu les sociologues. Les sociologues font un massif retour à l'archive pour historiciser des processus, notamment liés à l'histoire de l'immigration.
Romain Bertrand.
Oui, d'ailleurs, il faut aussi se rappeler, ou en tout cas faire le constat, qu'il n'y a pas en France de vrais grands lieux publics dédiés à l'histoire de la colonisation, à une histoire de la colonisation qui serait aussi nécessairement une histoire de l'immigration.
Il y a tout de même le musée de la Porte Dorée.
Oui, dont le traitement de la question coloniale pose aussi question. Dans la façon dont les parcours sont organisés, etc., pas dans les activités de recherche annexes de l'institution. Et il y a, par exemple, c'est une vraie question, comment rendre visible dans l'espace colonial, en essayant de se soustraire à la prise de mémoire idéologiquement active, contradictoire et parfois un peu nocive, un lieu dédié à cette histoire-là. Il y a des collectifs d'artistes, dans ce lieu nommé La Colonie, barré, ouvert par Kader Attia, qui réfléchissent, le collectif Suspended Spaces, par exemple, depuis quelques semaines, à ce qu'ils appellent l'impossible exposition coloniale. Donc je crois qu'il y a une vraie question sur, à partir de tout ce qu'on va collecter, par ailleurs, de ce qu'on va en faire et la façon dont on rend visible dans notre espace public, à destination de public large, scolaire et autres, cette question d'histoire coloniale.
Jean-Pierre Batte.
Les archives nationales,
très brièvement.
Au lendemain de la décolonisation, on crée un centre qui s'appelle les Archives nationales d'Outre-mer, avec la conscience récente que cette histoire ne peut pas s'arrêter au centre d'Aix, que ça déborde, si vous voulez, cette histoire du temps colonial, pour revenir à ce que tu disais précédemment.
Oui, Martin Moore.
Oui, je pense que la mémoire, elle n'est jamais partagée, ou il faut s'interroger comment elle est partagée, mais après, il y a une histoire à diffuser, il y a une histoire à complexifier, et le chercheur n'est pas uniquement chercheur, il est aussi citoyen, il peut s'engager dans toute une série de processus, justement, pour mettre un petit peu en perspective des histoires qui, parfois, sont douloureuses.
Merci à tous les trois donc d'être venus nous parler de toutes ces questions liées aux mémoires des colonisations. Alors, je rappelle donc vos travaux, Jean-Pierre Batte, et en particulier le prochain à paraître, ça sera donc ce colloque que vous aviez organisé autour de Jacques Foccart et de la France-Afrique, puisque là, c'est bien la France-Afrique qu'on appelait cela, mais aussi d'autres livres que vous avez conçus autour de ces relations entre la France de la Ve République en particulier et l'Afrique donc post-coloniale. Pour votre part, outre vos livres sur l'histoire à parts égales, mais aussi tous ceux que vous avez publiés au Seuil, Romain Bertrand, signalons donc ce dont nous avons parlé, cet excellent dossier de la documentation photographique La colonisation, une autre histoire. Et pour votre part, Martin Moore, le livre que vous venez tout juste de publier aux presses universitaires de Rennes, avec une préface d'Elikia Mbokolo, et qui s'intitule donc Tiaroy 1944. Vous n'avez pas titré parce que ça ne plaisait pas à l'éditeur, de Tiaroy en aperçoit Gorée, qui était le titre de votre thèse.
Exactement, j'ai négocié, il a refusé.
Bon, voilà, c'est, il faut savoir faire, c'est la première chose qu'on sait faire quand on écrit un livre, c'est de céder parfois devant son éditeur quand on veut véritablement qu'il soit publié. Donc ça s'appelle Tiaroy 1944 et non pas de Tiaroy on aperçoit Gorée, et c'est publié donc aux presses universitaires de Rennes. Merci Victor Massé de l'Épinay. Demain, nous parlerons dans notre émission d'actualité du vendredi du cinéma du réel et d'un autre grand connaisseur de l'Afrique, à savoir Jean Rouche. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Pierrick Monsigny était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Et puis je vous rappelle, c'est important, que samedi, c'est-à-dire après-demain, nous sommes tous avec la Fabrique de l'Histoire, l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, mais aussi nos partenaires du magazine L'Histoire et Valérie Hanin. Nous sommes tous au grand amphithéâtre de la Sorbonne, nous vous y attendons. Donc c'est de 10h à 18h, donc samedi prochain, après-demain. Nous y parlerons de la fin du travail, du vote et de la démocratie, de la guerre froide, du discours contre les élites. Et puis j'aurai le plaisir de recevoir en toute fin de journée, comme grand invité de cette journée, l'année vue par l'histoire, donc organisée par France Culture et par Paris Sorbonne, eh bien j'aurai le plaisir de recevoir l'historien britannique Sudhir Hazari Singh.